Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce 14e podcast de rédaction de Game Info. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tyran, Mordren et d'un petit nouveau Momo.
Salut.
Salut.
Bonjour.
Et comme d'habitude, le Tyran, s'il te plaît. Merci.
Le Tyran, justement. Alors, le Tyran, aujourd'hui, tu vas nous parler de la Xbox 360 qui se vend mieux cette année.
Oui, très bonne surprise. La Xbox 360, ses ventes ont augmenté sur l'année de 3 millions d'exemplaires. Pour le coup, on peut dire que Microsoft a gagné son pari, quoi, parce qu'on imagine bien que ses ventes sont liées à Kinect. Donc, comme quoi, hein, il suffit de sortir un accessoire avec pas de jeu dessus, et voilà, vous faites plus 3 millions d'exemplaires.
Mais surtout qu'on disait que c'était l'arrivée en force de la PS3 qui revenait, mais la Xbox n'est pas à battre, hein, finalement. Tient encore bien le coup?
Bah oui, d'un côté tant mieux, tu vois, ça fait toujours plus de concurrence, mais je veux dire, il n'y a pas de prime à la qualité, quoi. C'est ça qui me chagrine à chaque fois. Mais bon, ils ont fait quand même des efforts au niveau de tout ce qui est service sur la 360, etc. D'ailleurs, récemment, j'ai rallumé ma 360, j'ai eu des mises à jour de fou dessus, ça faisait un an à peu près que j'y avais plus touché.
Ah oui.
Et ils ont quand même changé pas mal de choses aussi au niveau de l'interface et tout. Donc bon.
Et est-ce que cette hausse des ventes serait peut-être liée à Kinect par hasard? Parce qu'on sait que l'air de rien.
Non, mais c'est ce que je disais, oui, c'est Kinect, quoi. C'est les filles Kinect. On pensait que ça allait faire un gros bide, et puis ils nous ont montré qu'avec
un bon coup de marketing, on peut vendre ce qu'on veut.
Oui, mais l'air de rien, je sais pas, je connais pas les chiffres par rapport au PlayStation Move, mais j'ai l'impression qu'il est quand même en retrait par rapport à Kinect. Donc je pense que c'est peut-être là-dessus que alors c'est pas un fossé, hein, mais c'est la différence est jouée.
Après, faut voir la vente de jeux aussi, parce que à mon avis, Kinect, ça se vend plus comme ça, mais ça tient moins bien sur la longueur. Enfin, après.
Attends, ça fait 50 qu'on dit ça, que de la Wii, elle est toujours là, hein, donc.
oui, enfin bon. Alors justement, la 360, c'est pas la seule console qui se vend bien, parce que la 3DS qui galérait quand même. Pas mal en comparaison de la DS, elle décolle au Japon et c'est Momo qui va nous en parler.
Oui, donc la 3DS cette semaine s'est vendue à 46 000 unités, donc elle est, on va dire, passée devant la PSP. Bon, en vente hebdomadaire, non pas encore, en vente annuelle, elle reste légèrement derrière la PSP en fait, au niveau vente annuelle de la 3DS. Mais c'est parce qu'il y a aussi le Zelda 3DS qui vient de sortir et qui marche plutôt bien.
Surtout, il y a eu un nouveau modèle de 3DS aussi qui est sorti, le modèle rouge qui est sorti, et on sait que les Japonais sont assez friands de ça. Ouais. Donc oui, c'est après il faut voir si ça dure, quoi. C'est toujours le même problème. Est-ce que ça va se pérenniser sur la durée ou est-ce que dès la semaine prochaine, il faut espérer pour Nintendo, quoi.
Ouais. Bah, faut espérer qu'ils sortent Mario Kart et tout ça, quoi.
Ouais. Ou alors qu'ils refont une nouvelle couleur. Peut-être si c'est lié à ça.
La semaine prochaine, la sortie de la 3DS jaune.
Ils auront bientôt plus de couleurs, hein, ce rythme-là. Donc tu parlais de Ocarina of Time, qui apparemment se vend aussi très bien en France.
Oui, ça se vend très bien sur 3DS, parce qu'on a eu actuellement les meilleures ventes de jeux en France. Et en première position, on trouve Ocarina of Time 3DS, avec Wii Fit en deuxième position, quoi.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour Ocarina of Time, parce que finalement... Que ce soit pour les plus vieux, c'est un remake qui a l'air de qualité. Pour les plus jeunes, c'est quand même un très bon jeu qu'il y a à découvrir, non?
Ouais.
Donc, oui, Mordred.
Oui, non, c'est clair et net que c'est un des plus grands jeux. Si on l'a pas fait, c'est sûr que... Si en plus on a une 3DS, c'est un des jeux à voir, quoi. Enfin, c'est un des seuls jeux à voir, d'ailleurs. Je vais pas faire ma langue de vipère, mais...
Oui, non, mais justement, j'en parlais avec...
Pour le moment, en tout cas, c'est un des meilleurs jeux disponibles sur 3DS, quoi.
Ben, j'en parlais avec Canard Sucré, qui était intervenu dans quelques-uns de nos podcasts, Game 3DS. Il disait c'est le seul gros jeu qui le motive pour l'instant à allumer sa 3DS. Hein. Donc bon, c'est finalement un jeu qui va faire plaisir aux possesseurs de la console. Mais par contre, sur 3DS, il y a des jeux qu'on va pas voir arriver, parce qu'il y a eu pas mal d'annulations. Notamment Assassin's Creed, Mega Man Legends ou du Saints Row. Quelqu'un veut en parler de ces jeux qu'on ne verra peut-être jamais?
Je veux en parler pour Assassin's Creed. Donc Assassin's Creed Lost Legacy qui a été annulé alors qu'il avait été annoncé à l'E3 2010. Donc ça c'est un peu dommage, quoi. Ouais. On attendait tous un Assassin's Creed sur portable.
Alors la petite histoire en fait, c'est a priori le Assassin's Creed Lost Legacy, c'est transformé, métamorphosé en Assassin's Creed Révélation.
C'est ce qui se dit. Hein.
C'est ce qui est en train de se dire, en fait. Et donc, alors, j'imagine que c'est par rapport au scénario qui a dû se développer d'une telle manière que les développeurs d'Ubisoft se sont dit « on va faire un épisode console de salon plutôt qu'un épisode console portable si le scénario est tellement important pour la série. Oui. » Autant le faire. Non, mais c'est une possibilité, hein,
de
faire des hypothèses là. Si le scénario est prendre l'ampleur, autant le faire sur un épisode console de salon que la plupart des gens qui suivent la série vont acheter, plutôt qu'un épisode console portable qui généralement sont plutôt dénigrés par les joueurs qui suivent la série.
Bah surtout que la 3DS finalement c'est une niche, hein, c'est pas. On regarde. Ouais, Revelation, ça sort sur PC 360 et PS3, ça fait un parc de consoles et de PC quand même assez énorme.
Oui. Donc bon. C'est sûr que ça aurait été un manque à gagner si le jeu était sorti sur 3DS. Donc bon, c'est sans doute pour ça que Ubisoft a préféré annuler le jeu. Alors peut-être qu'il va être ressorti des cartons dans quelques années, une fois que la 3DS aura décollé, ça on ne sait pas, hein, mais... Voilà, pour le moment, c'est sûr que...
Moi, de ce que j'ai vu, quand même, beaucoup d'éditeurs reprochent à la 3DS que, justement, ses ventes décollent pas pour le moment, quoi. Et je veux dire, même des éditeurs comme Sega, qui, en général, prennent pas mal de risques, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, ils ont l'air d'hésiter encore. Bon, Megaman, c'est une autre histoire. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, le créateur de Megaman s'est barré de chez Capcom, et il les a bien cassés en deux au passage, quand il s'est tiré. Et depuis, bon, le robot bleu est un peu... tombé en disgrâce chez Capcom. On va dire qu'ils en ont profité pour dégager cette série, quoi. Mais d'une manière générale, je veux dire, il y a une vague d'annulation ces derniers temps, c'est assez inquiétant, quoi.
Ouais, c'est pas super.
Ça
bon
sent le sapin, hein, quoi.
Pour une nouvelle console, c'est sûr que bon.
Oui. Après, comme le font remarquer très justement certains sur les forums, je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que quand Nintendo va sortir ses licences, et si ça se vend, on va encore avoir les mêmes éditeurs tiers qui vont se mettre à chialer parce que oui, nos jeux ils se vendent pas, les mecs, vous prenez pas de risques, venez pas vous plaindre après, quoi. Je veux dire,
Après, c'est eux qui veulent pas trop prendre de risques, ça peut se comprendre aussi, mais le souci c'est que du coup, ils laissent la place à Nintendo.
Attends, d'un autre côté, je suis désolé. Quand tu fais partie des premiers à sortir des jeux sur une console, tu vas forcément prendre un risque. Je veux dire, soit t'attends que la console soit bien installée, etc. Et à ce moment-là, tu sors tes jeux. Soit t'es parmi les premiers à sortir les jeux, mais à ce moment-là, ça veut dire que tu prends un risque, quoi. Mais faut qu'il se décide à un moment donné, parce que ça va bien deux secondes de reprocher à chaque génération à Nintendo de frauder les charts, etc. Mais s'ils font pas d'efforts, faut arrêter de se plaindre, quoi.
Et en même temps, là, ça peut être un risque payant, parce qu'on le voit, il y a pas énormément de jeux sur 3DS, donc si tu sors un très bon jeu, t'es sûr qu'il y a pas mal de possesseurs qui vont le prendre.
Bon, tu vois bien, on vient d'en parler, Ocarina of Time, je veux dire, c'est OK, c'est un excellent jeu, mais techniquement c'est qu'un remake, quoi. Je suis pas sûr que si le catalogue avait pas été plus conséquent, il serait autant vendu. Donc bon,
c'est le souci qui s'est passé avec le lancement de la 3DS, c'est que Nintendo avait pour une fois laissé beaucoup de place aux éditeurs tiers. Finalement, les éditeurs tiers qui ont été assez déçus du lancement en termes de vente de consoles et forcément de vente de jeux. Donc et notamment Ubisoft qui avait lancé, je crois que c'était 4 jeux au lancement.
Je crois que les jeux étaient pas d'une qualité.
Voilà.
Il y en avait quelques-uns limite, hein, donc bon.
C'est ça. Et dont un remake de Rayman qui a priori était le meilleur des 4. Donc voilà. C'est bien de prendre des risques, mais faut prendre les bons risques au bon moment, quoi. C'est sûr que si les jeux sont pas de bonne qualité et si il faut lancer des jeux de bonne qualité, c'est sûr et certain.
Lancer des jeux de bonne qualité, bien les marketer, je veux dire, il n'y a pas de secret, quoi. Nintendo, si les jeux ils se vendent, c'est parce que derrière, les campagnes de promo, elles assurent grave, quoi.
Voilà.
C'est des bons jeux avec une campagne de promo en béton armé. Les éditeurs, ils ne font ni de bonnes campagnes de promo, et en plus, la moitié du temps, c'est des jeux de merde. Hein, donc,
des jeux à la rigueur moyen.
Oui, on va dire ça pour rester plus posé. Donc pour rester dans Nintendo et du côté de ses consoles, On apprend qu'il y aura un Assassin's Creed sur Wii U. Alors finalement, ça confirme le fait que cette console va récupérer toutes les grandes licences qui avant étaient réservées aux consoles HD. Quelque chose à dire là-dessus ?
Bah, à ce qui paraît, ça sera vraiment un épisode distinct, quoi. Ça sera pas Assassin's Creed Révélation. Donc. Bon, une exclusivité pour la Wii, quoi.
Oui. D'accord. S'ils sortent un Assassin's Creed 3 que sur Wii U, mais je l'ai tué.
J'imagine pas.
C'est clairement pas le style d'Ubisoft.
Hein. Oui, ah, oui. Bah, c'est clair. En ce moment, pour faire une petite parenthèse, la série Assassin's Creed, j'ai l'impression qu'ils sortent beaucoup d'opus pour engendrer le plus de fric possible et qu'ils sortiront le 3 que quand ça commencera à s'épuiser niveau vente.
Bah, c'est-à-dire à partir du Révélation. Petite boule de cristal à la Michael Pachter là.
Oui, bon, méfie-toi, moi on avait bien vu pour le 3 ma boule de cristal, oui. Ce qu'elle avait donné. Hein.
Non, mais.
Donc Assassin's Creed, c'est Ubisoft et Ubisoft, on les aime. Pourquoi ? Parce que on vous parlait du pass que Sony va mettre en place pour ses exclusivités. Eh bien, on avait dit que ça se propagerait. Eh bien, ouais. Et ouais, Ubisoft va faire pareil.
C'est ça. Alors, un nouveau passeport. Pour accéder au contenu multijoueur des jeux Ubisoft, si vous avez acheté le jeu d'occasion. Donc, c'est-à-dire que si vous achetez le jeu à 70€ ou 60€, pas de souci, vous pouvez jouer, aucun problème. Si vous achetez le jeu à moitié prix en occasion, eh ben non, il va falloir payer le pass, c'est-à-dire une dizaine d'euros. Et donc voilà, ça confirme la tendance qui est en train de méchamment se propager à tous les éditeurs de jeux. Ça commence à bien faire. Donc le tyran, vas-y, finish him.
L'enfilade continue, quoi, j'ai envie de dire. Ils vont la mettre bien profond et enfin bon. Après, bon, pour avoir suivi un peu ce qui se disait sur les forums, j'en entendais certains arguer que oui, sur PC, ça fait des années que c'est comme ça. Alors, je voudrais répondre déjà. Bon, déjà, j'ai envie de dire que faut pas forcément prendre les plus mauvais côtés du jeu PC pour justifier ce genre de choses. Premier point. Et second point, messieurs, dames, je vous rappelle que nous, sur PC, les jeux, on les paye pas du tout au même prix que vous.
Exactement.
On les paye pas du tout au même prix que vous, de base. Mm. Et en plus, ces derniers, avec Steam, on les paye de moins en moins cher par rapport à vous.
Mm. Et surtout, donc, avec Steam, l'occasion, Steam, ouais, plus gentiment, quoi, l'occasion, tout en ayant l'appui des joueurs.
Bah oui, si sur PC on accepte ça, c'est aussi parce que nos jeux on les paye 10€, quoi. Faut dire ce qui est. Mm. C'est, moi, ça fait au moins le dernier jeu que j'ai payé à plus de 20€, c'était Shogun Total War et j'ai payé à 25,09€. Hein. Donc voilà, quoi.
Ou même un petit exemple.
Et c'était le jour de sa sortie. Hein.
Donc en dématérialisé, on est d'accord.
Moi, Bad Company 2 sur Steam. Bad Company 2. Avec Bad Company de Vietnam et l'espèce de le Resurgence Pack, je sais pas quoi, 10€. Juste Bad Company 2 sur console, pour rappel, c'est 30€. Donc bon, faut dire ce qui est, c'est déjà un autre monde, c'est assez difficile à comparer.
Donc voilà, tout ça pour dire que oui, effectivement, sur PC, il y a des vrais problèmes de... Voilà, on a un code par jeu, on peut pas revendre nos jeux de cas sur Steam, etc. Mais sur PC, c'est un autre monde, on paye nos jeux carrément moins cher. Vous, vos jeux, vous les payez, bon, on va dire avec l'import en anglais, vous les payez 40€, quoi. Je vais être sympa, mais la majorité des gens, c'est 70, hein, faut en être conscient. Et non seulement vous les payez très cher, mais en plus, vous allez maintenant devoir payer pour jouer en ligne. Et ça, franchement, c'est...
Alors, pas si tu l'achètes en neuf, attention. Hein.
Oui, pas si tu les achètes en neuf, c'est vrai.
Génial. Et en plus, tu payes ton abonnement au Xbox Live si tu joues sur Xbox. Alors, tu sais, ça va faire 100€ le jeu, peut-être.
Non, mais sur Xbox, je pense pas qu'il y ait. Je suis persuadé qu'ils n'oseront pas, c'est pas possible.
Bah, si et Ubisoft le fait, de toute façon, ils vont être obligés de subir ça, parce que le Assassin's Creed Révélation, par exemple.
Il me semble pas qu'ils aient précisé que ça serait généralisé. Hein,
ils ont
mais,
juste précisé le prix, ne sera pas 10€.
Oui, mais après c'est vrai que l'annonce est assez floue. Hein, on sait pas si ça sera sur Xbox 360.
Ils sont plutôt timides parce qu'ils veulent se faire massacrer petit à petit à la place de tout prendre d'un coup. Mais tu vas voir.
Mais Ubisoft, enfin,
Moi, ça me pose encore plus de problèmes avec Ubisoft, parce que déjà, j'avais un certain nombre de griefs sur Ubisoft vis-à-vis de leur politique sur PC, déjà, qui est assez scandaleuse. Hein. Je vais pas rappeler ici les histoires de DRM qu'ils ont foutu, qui est, franchement, c'était un pur scandale. Ce qui fait, tu vois, que même Assassin's Creed à 5 euros, même pas je l'achète, tu vois, j'ai rien à foutre. Mais bon, bon, d'une manière générale, c'est, je l'ai déjà dit, hein. Vous voulez pas que ça arrive, les gens, bah, n'achetez pas les jeux.
Enfin, là, ils sont rendus comme c'est rendu, on va plus pouvoir acheter aucun jeu, là, parce que,
bah, là, mais là, ils sont en train de tester. Mmh. Je veux dire, s'ils avaient vraiment y aller franco, tu vois, ils auraient dit, bon, bah, maintenant, à partir de maintenant, on va mettre ça sur tous nos jeux. Alors, non, là, ils ont annoncé sur un jeu.
Ouais, ils sont en train de tester. À savoir, Driver San Francisco pour Ubisoft.
De toute façon, il va pas se vendre, ce jeu. Alors bon.
Sony, c'est Resistance 3.
Donc
voilà, c'est vraiment le coup d'essai. Mais attention, si le coup d'essai ça passe, c'est ce qu'on disait il y a deux semaines, il y aura des soucis. Hein.
Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est pas très difficile en plus vu des jeux. vous n'achetez pas ces jeux, point. Et là, vous.
Ça fait économiser de l'argent en plus.
Ça fait économiser de l'argent. Vous allez pouvoir acheter des jeux super bien à côté. C'est cool.
Donc justement, on parlait de se faire entuber, mais d'un côté, il y a aussi des éditeurs, des développeurs qui ont plutôt un bon esprit. Par exemple, Valve qui va mettre la campagne D-Day du premier Left 4 Dead. Ouais. Ah bah qui a mis. Ouais.
22 sur juillet. Sur Left 4 Dead 2. J'ai pu y jouer. Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. De toute façon, je pense qu'ils vont mettre, tu vois, toutes les campagnes de Left 4 Dead 1 dans le 2 d'ici, je pense, octobre ou d'ici Noël.
Ça va faire un peu passer la pilule des fans qui avaient mal apprécié Left 4 Dead 2 qui était sorti assez tôt. Aussi.
Ah bon,
ça vient un petit peu tard, non, vous ne trouvez pas?
Non, mais moi, ce qui aurait dû être fait de base, moi, je pense, c'est que les deux communautés auraient dû pouvoir jouer ensemble, quoi. Sur Magica, par exemple, j'ai fait un super test sur Game Info, allez voir. tous les DLC qui en supplément, même si tu ne les achètes pas, si le mec qui héberge la partie joue sur cette map, tu y as accès.
Ouais.
Ils auraient dû faire ça sur Left 4 Dead 2, je pense, par rapport à Left 4 Dead 1, s'assurer qu'il y ait une compatibilité pour que la communauté du 1 soit pas désertée.
Ouais, mais ça prévient moins vendre de deux d'un côté.
Ça aurait été vraiment assumer le fait que c'était un vrai DLC, hein, Left 4 Dead 2. De dire ça, de faire ce.
Ouais, voilà. Et même, il y a beaucoup de différences. Il y a les armes corps à corps, il y a les nouveaux infectés, et même.
Les différences, c'est pas les armes, c'est le moteur qui est totalement différent, en fait. Ouais. Parlez-en aux modeurs, c'est, ceux qui ont fait des mods pour Left 4 Dead 1 étaient dégoûtés, parce que les portées sur Left 4 Dead 2, c'était, une ignominie, apparemment, c'était une horreur, quoi. Et, enfin bon, moi, oui, bon, c'est, tant mieux, ça a peut-être permis.
Oui, saluons quand même l'initiative.
Les deux communautés, mais moi, en tant que joueur de Left 4 Dead 1, bon, ça fait un moment que j'ai acheté Left 4 Dead 2 quand même, parce que à 5 euros ou 10 euros, bon voilà, je veux dire, à 5 euros c'était à peu près le prix auquel je voulais, le prix juste que j'estimais pour ça. Donc je l'ai acheté à ce moment-là, mais c'est clair que s'il avait été, il était resté à un prix élevé, ça m'aurait fait chier, parce que du coup, t'imagines, t'es le joueur de Left 4 Dead 1, là, du coup, tous les joueurs de Left 4 Dead 1, ils vont se barrer sur le 2, quoi, c'est
triste. Donc, tu vas nous parler maintenant de Irem, et t'as commenté, alors je cite, ça sent le sapin. Alors, est-ce que tu peux nous en dire?
Ça sent le sapin, parce qu'ils ont, ces derniers temps, ils ont annulé plusieurs jeux, etc. Enfin, bref, ça va très très mal pour Irem, on se demande s'ils vont passer l'année. Et, à titre personnel, c'est un vrai drame. Bon, déjà, Irem, c'est quand même un jeu culte, c'est R-Type, quoi, c'est un shooter culte. Et à titre personnel, sur deux jeux, deux de mes plus gros coups de cœur sur PS2, à savoir SOS The Final Escape, qui est un jeu de un survival, dans une ville où il y a des tremblements de terre de partout. Enfin, c'est un jeu que j'ai adoré. Mmh. Et Steamboat Chronicle, qui était un jeu mélangeant RPG, jeu musical, un de mes plus gros coups de cœur de ces 10 dernières années. Et franchement, ça me fend le cœur de voir un studio comme ça qui va fermer ses portes, quoi. C'est et en plus, d'autant plus qu'au Japon, c'est un studio historique, quoi. Donc s'il se ferme,
il y a peut-être moyen qu'il se fasse racheter.
Franchement, j'y crois pas. Enfin, vu ils ont pas eu beaucoup de succès ces dernières années.
On rachète pas une planche pourrie, quoi.
En plus, ils sont étroitement liés au secteur du pachinko et le pachinko ces dernières années au Japon. Voilà quoi, ça marche pas fort. Donc bon, on croise les doigts, mais
ça semble ça mal parti. D'accord. Donc, par contre, une bonne nouvelle que tu vas nous annoncer maintenant pour un peu égaliser. Catherine, il va sortir en Europe.
Alors, sortir en Europe sans plus de précision, mais c'est déjà pas mal parce que j'étais pas sûr qu'on le voit débarquer un jour.
C'est quand même un jeu assez atypique.
Ah oui, quand même. Bah, pour rappeler le concept un peu, alors bon, déjà, l'histoire, c'est un mec qui grosso modo va tromper sa nana. Et en la trompant, il va commencer à avoir des rêves horrifiques, absolument terrifiants. Enfin, c'est un jeu Atlus, c'est un peu dans la lignée des Shin Megami Tensei, etc. Ou vraiment un jeu avec une ambiance assez pas flippante, mais angoissante, quoi. Et en plus, c'est un puzzle game, un jeu mélangeant puzzle game et aventure. Donc le thème est couillu, le concept est couillu. En plus, c'est un jeu mais typiquement japonais, que ce soit dans le design, etc. Donc le sortir en Europe, bravo quoi. Bravo, chapeau bas. Bon, personnellement, je suis pas sûr que j'aurai la patience d'attendre une sortie européenne. Parce que bon, voilà, il est déjà sorti aux États-Unis et bon, vu les prix aux US et tout, voilà. Mais l'initiative est à saluer.
Et je vais peut-être paraître pessimiste, mais c'est quasiment sûr qu'il se plante en Europe en plus, non?
En termes de vente?
À mon avis, ouais. Ils n'en attendent pas des monts et merveilles non plus. Hein. Je veux dire, au Japon, il y a plein de jeux comme ça qui se vendent à 100, 200 000 exemplaires. Les mecs sont contents. C'est pas non plus une production je veux dire, tu vois le jeu. Bon, il est joli, hein. C'est un jeu en cel shading et tout, assez sympathique. Mais c'est pas non plus une super production. Je veux dire, des jeux comme Modern Sphere se vendent bien à 88 000 exemplaires en Europe. Donc, un jeu comme Catherine, un peu mature et tout. En plus, le jeu est un peu aguicheur. Donc,
il y a moyen de faire du marketing dessus.
Un peu plus de 100 000 exemplaires, je pense, il y a moyen de faire ça. Et je pense que Atlus sera très bien s'en confronter, quoi. De toute façon, tous les jeux qui sont du Japon pour arriver chez nous, en général, ils font pas tellement plus, hein, sauf les gros jeux Square Enix et tout. Voilà, quoi. Mais franchement, un jeu que j'attends avec énormément d'impatience, bon, qui ne sera probablement pas traduit comme d'habitude, ce qui est le principal problème, mais en même temps, bon, des jeux comme ça, leur reproche est de ne pas être traduit, alors que quand tu vois les coûts de traduction et tout...
oui, bah surtout que, comme tu disais, ils savent que les ventes vont pas être extraordinaires, donc bon...
À moi, qui est vraiment un super succès d'estime et tout, du bouche à oreille de fou, mais j'y crois pas.
Ouais... Donc on va parler maintenant d'un jeu qui lui ne se contentera pas de 100 000 exemplaires en Europe. Il s'agit de Battlefield 3 qui a eu le droit à une nouvelle vidéo multi. Qui veut en parler?
Quand même, je sais pas pour vous, mais franchement, ça pétait bien quoi. Il y avait pas mal d'action et tout. Après, petit bémol que j'ai noté comme ça, la barre de vie qui remonte en mode automatique. Ça passe pas quoi. C'est
Bad Company 2 est passé par là, j'ai envie de dire.
Ouais, bah Bad Company et Modern Warfare avant lui quoi, j'ai envie de dire. Ça fait partie de ces choses qui me plaisent assez moyennement dans les FPS modernes. Bon après aussi on a vu quand même pu voir enfin des images de Paris. Et ça fait plaisir de voir un Paris qui correspond enfin au Paris actuel avec des voitures d'aujourd'hui.
Le métro parisien en mode multijoueur, il avait l'air génial. Enfin, ouais. Moi j'ai vu.
Un peu plus clean que l'original d'ailleurs. C'est paradoxal pour un.
Clean, tu prends.
Oh, ce privé joke de parisien là. Moi j'attends encore d'avoir la Vendée dans Battlefield 3. Bah j'y crois.
Bon, pour une vidéo multijoueur, c'était assez impressionnant quand même. Hein. Dire bah,
je trouve que c'est une confirmation, moi. Comme tu disais, la vie qui se recharge automatiquement, on l'a vu venir, c'est pas une surprise. Alors, une confirmation des bons comme des mauvais points, finalement, non?
Ouais, bon, après, on attendra d'en savoir plus. Je sais pas s'ils avaient annoncé combien de joueurs il y aurait sur les cartes, par exemple.
Pas encore.
Ça, c'est un point que j'attends, mais vraiment. En ligne, comment ça va se passer, etc. Bon, on a pu voir qu'il y avait des pans d'immeubles sur la vidéo qui s'écroulaient.
Ça, je me méfie. Ça, honnêtement,
mais on voyait pas grand chose non plus, hein. Je veux dire, c'était, t'avais un petit bout qui se détachait, c'était pas non plus genre t'avais l'immeuble qui s'écroulait, faut pas déconner non plus, quoi. Donc, ouais, j'attends de voir.
Et apparemment, ils ont le même goût pour la poussière que dans Bad Company 2. Alors, je dis juste pour ceux qui jouent souvent à jeu, c'est un jeu où il y a tout le temps une tonne de poussière. Les mecs, ils ont appris à la modéliser, à la faire se déplacer en fonction de plein d'éléments et tout. Donc du coup, maintenant, ils sont contents, ils en foutent partout. Mais quand je dis partout, c'est qu'il y a des niveaux où on voit rien. Et... voilà, donc, c'est con à dire, mais moi, ce qui me fait peur dans BF3, c'est la poussière.
Des tas de poussière en plein dans une maison. Oh mon Dieu !
C'est tellement réaliste que j'y vois rien.
Voilà. Donc, quelque chose à rajouter sur BF3 ? Non.
Bah, moi j'attends juste avec impatience le jeu, quoi.
Bah ouais, comme tout le monde. Donc on va maintenant passer à nos jeux du moment et c'est Tyran qui va commencer avec The Legend of Heroes Thrice in the Sky. Eh bien, Tyran, vas-y, fais-nous rêver.
Un peu The Legend of Heroes. The Legend of Heroes, à la base, c'est un jeu PC. Mais un jeu japonais. D'une boîte assez connue dans le monde des rôlistes japonisants, qui est entre autres responsable de la série des IS. Et là, ces derniers temps, ils sont assez prolixes, puisqu'ils produisent des portages de PC, PSP en fait. Donc voilà The Legend of Heroes 13 in the Sky qui débarque. Alors il faut savoir que c'est le sixième épisode d'une grande saga. Bon, enfin je dis grande, faut pas exagérer non plus, quoi. Une saga, il y a eu des bons épisodes et des moins bons. Cet épisode a la particularité, un peu comme un Shining Force 3, d'être divisé en trois chapitres. Et donc, 13 in the Sky, c'est le premier chapitre de ce nouvel épisode. Donc le jeu démarre sur une introduction où un certain Cassius Bright, une nuit, ramène un jeune garçon chez lui. Et ce jeune garçon est dans un sale état, quoi. Tu sais pas ce qui lui est arrivé. T'imagines qu'il a été attaqué. Alors en plus, il est un peu bizarre. Il est assez froid. C'est limite, il menace pas son sauveur et tout. Enfin, c'est bon. Le jeune garçon se fait vite remettre à sa place par la fille de ce Cassius, Estelle. Ces deux-là vont grandir ensemble et quelques années plus tard, ils vont commencer leur quête. Parce qu'il faut savoir que leur père, donc Cassius Bright, est membre d'une guilde, la guilde des brasseurs. C'est pas les brasseurs de bière, hein, je précise. Je donne le terme anglais parce que je ne sais pas trop
c'est
comment
ça... C'est tout de suite moins intéressant. Hein.
je donne le terme anglais parce qu'en fait, je ne sais pas trop comment ça se traduit en français. Le brasseur, en fait, si vous voulez, c'est les gantelets, enfin les avant-bras sur les armures. Je sais pas trop comment ça se traduit. Donc c'est la guilde des brasseurs. C'est un peu des hommes à tout faire. Ils chassent les monstres. Si t'as perdu un truc, ils t'aident à le retrouver. Ils te font des escortes, etc. Quoi. C'est un peu des bons samaritains. Mais des bons samaritains qui bossent pour le pognon, hein, quand même. Faut pas les comprendre plus.
Des bons samaritains intéressés, quoi.
Voilà, des bons samaritains intéressés. Le jour de leur 16 ans, donc, Estelle et Joshua partent dans une quête pour devenir des apprentis de la guilde. Ce jour-là, leur père va partir sur une mission parce qu'il reçoit une mystérieuse lettre. Et le problème, c'est que, bon, là je spoil pas grand-chose, hein, c'est le début du jeu. À la fin du prologue, on va apprendre que le vaisseau dans lequel le père se trouvait va s'est crashé.
Oh, comme j'ai vu venir.
Et donc, Estelle et Joshua vont partir à la recherche de leur père. Et au passage, ils vont en profiter, bien évidemment, pour faire un certain nombre de quêtes pour la guilde des brasseurs et devenir des brasseurs confirmés, parce que ils sont considérés comme des apprentis pour le moment et qu'il faut qu'ils aient l'approbation des guildes de chacune des grandes villes du royaume où ils se trouvent, pour enfin devenir des brasseurs accomplis, quoi.
D'accord. Question. Est-ce que la quête, c'est pour sauver le monde? Parce qu'on est habitué avec les RPG japonais à tout le temps sauver le monde.
Pour présenter un peu le style de The Legend of Heroes, 13 in the Sky, c'est un jeu qui fait beaucoup penser à Suikoden.
D'accord.
Alors, pour ceux qui connaissent Suikoden, enfin qui ne le connaissent pas plutôt, Suikoden c'est quand même un jeu avec beaucoup de complots politiques, des intrigues. The Legend of Heroes, c'est 13 in the Sky, c'est ça.
Bon, c'est moins gnangnang que d'habitude donc.
Tu sens qu'il y a quelque chose de surnaturel derrière quand même.
D'accord.
Mais, enfin, comme dans Suikoden, tu vois, il y a quelque chose de surnaturel, mais ça n'empêche qu'à côté, tu as toujours de la politique, des trucs comme ça, quoi. Mm-hmm. Bon, c'est quand même pas au niveau de Suikoden, où Suikoden c'est vraiment mature, etc. Là, quand même, ça reste le thème de la quête initiatique.
D'accord.
C'est deux jeunes gens qui partent à l'aventure, qui vont grandir au fur et à mesure de cette aventure, quoi. Mm-hmm. Donc, par exemple, Joshua a été adopté par Cassius, donc techniquement, Joshua et Estelle sont demi-frères et demi-sœurs. Mmh. Et bon, tu réalises vite fait, tu vois, qu'en fait, ces deux-là, ils sont amoureux, bon, comme d'habitude. Donc, Estelle, comme toutes les filles de ce genre de jeu, au début, elle n'a pas conscience. « Oh ouais, c'est mon demi-frère !» Et tout. Bon, évidemment, au fil d'aventure, ses sentiments vont évoluer, etc. Bon, c'est classique. Mais, ne pas s'y prendre, messieurs, dames, ce jeu a... On va passer maintenant à la critique en elle-même. Ce jeu a une qualité de narration extraordinaire, je le dis. On m'avait dit que ce jeu était le chef-d'œuvre de Falcom. J'étais un peu sceptique, mais franchement, après y avoir joué, sur ces 10 dernières années, c'est un des jeux qui m'a marqué, quoi. La narration est nickel. Chaque chapitre a son histoire, il y en a 5 en tout. Et en même temps, il y a son histoire, mais ça développe l'intrigue principale en parallèle. Chaque chapitre, il y a des nouveaux personnages qui sont introduits, qui partent à la fin du chapitre et de nouveaux sont introduits au chapitre suivant. Le chapitre 5, t'as un grand final où t'as le retour de tous les personnages. Alors en plus, il y a des personnages cultes. Genre, il y a une espèce de barde qui est là. C'est un personnage totalement extravagant, obscène. Enfin, il y a plein de personnages excellents comme ça. Le casting est riche. En plus, c'est un jeu qui est rempli de détails. C'est un des rares jeux où j'aime discuter avec les personnages non-joueurs. Mmh. Parce que, au fur et à mesure que l'histoire du chapitre où tu te trouves évolue, les dialogues sont différents avec les PNJ. En plus, il y a des PNJ que tu vas aider, que tu vas retrouver plus tard dans l'aventure. Mais pas des PNJ importants, hein. Mais mine de rien, c'est ce genre de détails qui fait que tu t'attaches à l'univers au personnage.
Ça aide à l'immersion.
Voilà. Alors, on va parler maintenant un peu du système, quand même, parce que l'histoire est excellente, l'univers est excellent, la narration est excellente, mais ce n'est pas tout, le système de jeu est excellent aussi. Alors, il faut savoir qu'il fait énormément penser au système de matériaux de Final Fantasy VII, ce qui, pour certains, j'en suis sûr, sera un énorme compliment.
Un gage de qualité.
Alors, il faut savoir que donc dans l'univers de The Legend of Heroes 13 in the Sky, tous les appareils fonctionnent avec une pierre qu'on appelle le quartz. Ce n'est pas comme le quartz de chez nous, hein, c'est vraiment une pierre magique, un peu comme les matérias. Et en gros, tout fonctionne avec ça, quoi. Les vaisseaux volants fonctionnent avec ça, les fusils fonctionnent avec ça, bref, tout fonctionne avec ça. Et donc, chaque combattant, en fait, a une espèce de montre. Ça ressemble à une montre. C'est une montre qui est personnalisée. Ils vont pouvoir y incruster des morceaux de quartz pour y mettre des pouvoirs. Donc c'est un peu comme dans Final Fantasy VII. T'as des quartz qui vont faire des pouvoirs éclairs, des quartz qui vont faire des pouvoirs feu, etc. Alors la nuance avec Final Fantasy VII, c'est qu'en fait, c'est un système qui fonctionne en fonction des valeurs. C'est-à-dire que pour produire un sort, par exemple un sort météore, il va te falloir un quartz avec une valeur de 4 ampères et un quartz avec une valeur, par exemple, de 3 en feu, tu vois. Mmh. Sachant que tous les quartz n'ont pas la même valeur de manière intrinsèque. Donc ça veut dire que si tu mets plusieurs quartz de feu, tu peux combiner plusieurs quartz de feu et un quartz de terre pour finalement arriver à avoir le sort que tu veux, quoi. Je sais pas si je suis clair.
Ouais, donc ça veut dire que en fonction du nombre de quartz que tu unis, tu peux avoir différents sorts.
Voilà. En fait, alors il faut savoir que c'est un jeu où tu as plein de bouquins, tu as le bouquin où tu as liste des quêtes et tu as un bouquin où tu as liste des sorts en fait. Tu as accès à tous les sorts et il te dit juste pour faire ce sort-là, il faut que tu aies tant de quartz de feu, tant de quartz de pierre, etc. Tout simplement. Donc, tu as juste deux slots de libre sur ta montre, mais il faut savoir que tu peux en débloquer plusieurs. Donc, la priorité au début, c'est que tu vas débloquer tes slots de quartz pour pouvoir avoir accès aux sorts les plus élevés, parce que techniquement, avec deux slots, même si tu as des pierres top qualité, mais jamais tu arriveras à avoir les sorts les plus puissants, quoi. C'est un système, il faut équilibrer. D'un côté, il faut que tu débloques les slots pour tes quartz, et de l'autre, il faut que tu forges les pierres, parce qu'en fait, tu récupères des fragments sur les monstres, et plus t'as fragments, plus ça te permet en fait de forger des quartz avec. Donc voilà pour le côté du système de customisation. Donc ça, c'est pour les sorts. Et ensuite, donc comme d'habitude, t'as les armes, etc. Donc il faut savoir qu'en plus, chaque quartz a des propriétés particulières. Genre, t'as un quartz qui va te permettre de te déplacer plus vite, ou t'as un quartz qui va te permettre de tuer ton ennemi en un coup, ce qui est assez balèze, mais il s'autodétruira après, etc. C'est complexe, quoi. C'est varié, c'est complexe. En plus, le système de combat, ça ressemble un peu au tactical RPG, où c'est un système de cases.
D'accord. Et tu contrôles combien de personnages au maximum dans le jeu?
C'est une équipe de 4 personnages maximum.
D'accord.
Okay. Sachant qu'en plus, t'as Estelle et Joshua que tu vas jouer tout au long de l'aventure, normal, ce sont les héros, et qu'à chaque chapitre, grosso modo, en fait, tu vas 2 personnages qui vont venir s'ajouter, et que le dernier chapitre, tu vas les avoir à tour de rôle, puis tu vas avoir un grand final où là, évidemment, tu vas choisir le chapitre, enfin, les personnages que tu veux, tes persos préférés, etc., quoi.
D'accord.
Alors, pour conclure, pourquoi je considère aussi The Legend of Heroes Resist the Sky culte? Parce que la fin est culte. La fin de ce premier chapitre est culte, elle est absolument énorme. Jusque-là, le scénario était assez prévisible, on va dire, mais t'as une espèce de retournement de situation. C'est aussi culte que frustrant, en fait, parce que là, tu te dis, bon, ils ont promis qu'ils allaient sortir a priori, c'est signé, c'est gravé dans le marbre et tout, les deux chapitres suivants vont sortir, mais s'ils sortent pas, ça va être insoutenable, quoi. Parce que la fin, il y a un twist, mais tu te dis, non, mais, vous pouvez pas nous faire ça, quoi, c'est pas possible,
ils ont trouvé un bon moyen de vendre les prochains, quoi.
Bon. Aussi, pourquoi c'est un jeu que l'on sait d'Hercule? Parce que c'est un des rares jeux qui m'a fait chialer, quand même. Je le dis, jeu m'a fait chialer. La fin m'a fait chialer, mais j'ai chialé grave, quoi.
Il a tyrannisé tyran.
C'est mignon.
Il est tombé en dépression, rigolez pas.
C'est des jeux qui m'ont fait chialer comme ça, se compte sur les doigts d'une main. Ouais. Quoi, je veux dire, il y a Planet Escape Torment, peut-être. Et ça s'arrête à peu près là, quoi. D'accord. Mais franchement,
le dernier Call of Duty, non? C'est très émouvant.
Chose.
Et quelque part, tu vois, c'est pas non plus une histoire complexe, quoi. Ça se fait en toute simplicité, mais c'est passionnant à suivre, quoi. C'est une histoire passionnante à suivre. Tu t'attaches au personnage. Franchement,
on sent l'émotion qui remonte. C'est là.
un jeu à faire, quoi.
D'accord. Faire. Et donc, il y aura des suites. Elles sont déjà sorties au Japon ou pas du tout?
Ah oui, ça fait belle lurette. Non mais je veux dire, le jeu, donc, je crois que c'est sorti sur PC en 2003, hein, je crois, un truc comme ça. Donc bon, artistiquement, petit reproche quand même, c'est pas non plus. Je veux dire, après Solato Robo, qui est vraiment sur plan artistique, je vais pas refaire le test ici que j'avais fait la dernière fois, mais franchement, artistiquement, c'était énorme, quoi. Là, c'est un peu fat quand même, je trouve.
D'accord.
Pour de la PSP, c'est assez joli, quoi. C'est de la 3D mignonnette, très sympa. Et grosse qualité, par contre, le jeu est long. Faut savoir que pour le finir, bon, j'ai fait tous les quêtes comme d'hab, hein, vous savez, moi c'est toujours comme ça, toutes les quêtes qui me passent sous la main, on y va, quoi. Et donc pour le finir, il m'a fallu à peu près 58 heures de jeu.
Ah oui.
C'est honnête.
58 heures, putain.
58 heures.
J'ai pris mon deux, je pense, mon temps quand même. Je pense que en rushant, il y a moyen de faire en 40-45 heures.
D'accord.
C'est plus rush à ce niveau.
En plus, parce qu'il faut savoir que t'as un système de quêtes tout le jeu est basé sur ça. Hein. Tu vas dans les guides, en gros, t'as des quêtes principales qui sont marquées, bien marquées. Tu sais que celles-là, il faut les faire si tu veux avancer dans l'histoire. Et t'as des quêtes annexes. Bon, quand même, moi, je vous conseille de ne pas négliger les quêtes annexes parce que ouais, le jeu est dur. Hein. C'est un jeu, clairement, si tu fais pas gaffe, tu te fais défoncer la tronche. Quoi. C'est, les monstres, ça ne pardonne pas. Il y a des zones, tu te fais arracher la tête. Si t'es pas bien préparé, t'as pas bien préparé tes armures, t'as pas acheté la dernière armure qui va bien, si t'as pas tous les quartz, t'as bien optimisé tes quartz pour faire les sorts qui vont bien, pour faire des combos et tout. Si t'es pas préparé, tu vas en chier, quoi. C'est pas un jeu où t'avances en ligne droite comme ça, ouais, c'est la fête et tout. Non, non. Faut te préparer avant, quoi. Faut réfléchir.
Donc beaucoup de phases de level up aussi.
Oui, mais c'est pas déplaisant parce que les quêtes sont pas forcément inintéressantes non plus. Le seul reproche que je leur ferais, c'est que finalement, il y a beaucoup d'allers-retours, quoi. Ah. Et je me rappelle, genre, il y a un passage dans le jeu où à un moment, tu vois, tu dois aller dans une mine et tout, à perpète. Et à un moment donné, t'as un cadenas sur la porte de la mine. Et t'as, alors je sais pas s'ils ont fait du lourd, je sais pas. Et la nana, elle fait, bon, bah, allez, on défonce, quoi, ce cadenas. Et t'as le maître qui est là, elle fait, non, non, on retourne au village. Et moi, tu vois derrière, non!
Après, tu redonnes une clé, tu retournes, et là, tu te rends compte qu'il s'est trompé de clé. Non, c'est pas ça.
Ouais, mais c'est toujours comme ça dans les RPG.
C'est façon. Normal qu'il dure 58 heures.
Ce qui m'a fait marrer aussi, c'est que le jeu est bourré d'humour. Genre, tu sais, les coffres, d'habitude, quand t'as déjà ouvert et tout, d'habitude, t'as un message comme ça. Le coffre est vide, quoi. Et là, je sais pas, les mecs, je sais pas ce qu'ils ont fumé. À chaque fois, t'as un message genre, le coffre est vide. Je me demande qui ça peut bien être. Ou que des messages à la con comme ça. Je savais que j'allais te revoir. Que des conneries comme ça. Et, c'est, tu vois, ça fait partie des détails qui fait que, franchement, ce jeu, j'étais à fond dedans, quoi. Et voilà. Donc, excellent jeu. Si vous avez une PSP, faites-le. La PSP prouve encore une fois que niveau RPG, c'est la reine du genre, quoi. Donc, allez-y. Éclatez-vous.
Donc, après ton jeu qui fait rire et pleurer, moi, je vais passer à un truc... un peu plus basique, si je puis dire. Il s'agit de Crysis, qui était sorti le 16 novembre 2007. Alors, pour l'anecdote, c'est développé par Crytek, donc une partie de l'équipe de ceux qui avaient fait Far Cry, et finalement, on en retrouve pas mal du Far Cry dans ce Crysis, vous allez le voir. Donc, au niveau du pitch, vous êtes un super soldat avec une super combinaison qui arrive sur une super île, mais avec beaucoup de Coréens.
Coréens.
Oui, non, ils sont pas super les Coréens. Vous allez devoir en fait chercher ce qui se passe sur cette île et tout. Je vais pas trop vous en dire. Bon, c'est un scénario qui est assez bateau. Je vais même me permettre de dire un mini spoil, mais c'est pas un spoil parce que déjà le jeu a bientôt 4 ans et ça a été dit partout. Au bout d'un moment, vous découvrirez qu'il y a des méchants extraterrestres et finalement l'île paradisiaque se transformera en congèle. Mais bref. Crysis, c'est un jeu qui avait pas mal marqué à l'époque pour la configuration qu'il demandait. Ça reste tout de même assez costaud, même aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que le jeu est beau et que contrairement à Crysis Warhead, qui l'a suivi, ou même Crysis 2, même si c'est assez particulier, il est assez mal optimisé. Alors moi, j'ai envie d'en parler, parce qu'en ce moment, j'y joue à fond. Et oui, 4 ans après, j'ai enfin l'ordinateur pour. Et finalement, c'est un très bon jeu et ce serait con de le limiter au graphisme comme certains sites ou magazines ont pu le faire à l'époque. Parce que finalement, Crysis, c'est quoi ? C'est un FPS qui innove pas mal. Enfin, c'est pas qu'il innove, mais c'est qu'il a pas forcément cédé à la mode couloir comme son deuxième opus. Mais voilà. Bon, Crysis 2, pour moi, c'est limite pas la même série. Hein. C'est vraiment. Donc là, vous serez complètement lâché dans une île, bon, pas totalement ouverte, mais on va dire que vous évoluerez de zone en zone, et dans chaque zone, il y aura des objectifs complémentaires, vous pourrez un peu l'explorer. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il y aura toujours des camps d'ennemis, vous aurez rien à faire, hein. Il n'y aura pas d'objectif spécial ou autre, mais il y aura des camps d'ennemis, comme ça, où vous pouvez aller tuer tout le monde, si ça vous plaît, hein, récupérer des armes là-bas, ou n'importe quoi. Et on a une sensation de liberté, comme ça, alors justement, une sensation de liberté qui est accrue, parce que on peut se permettre de déjouer un peu les chemins d'origine, parce que avec nos pouvoirs, on a pas mal de possibilités. Donc pour ceux qui ne le savent pas au niveau des pouvoirs, la combinaison nous permet des trucs sympathiques comme courir plus vite, devenir invisible, avoir une super armure, sauter super haut et en même temps avoir une super force. Bon, c'est des trucs qui sont assez sympas, mais Crysis, ce qui fait plaisir, c'est qu'il n'est pas linéaire aussi, parce que moi, je m'en souviens, en fait, je veux dire rapidement une mission. Il y a un camp de Coréens qu'il faut attaquer, qui est en haut d'une espèce de colline, en fait. Et il y a deux chemins qui sont vraiment possibles. Alors, soit on passe par la route normale, alors là, il y a des camps de garde à tuer et tout. Mais moi, ce que je m'étais amusé à faire, c'est que j'avais vu qu'il y avait des cailloux un peu où on pouvait aller. Et finalement, avec le mode fort, j'avais réussi à sauter sur la montagne, directement l'escalader, prendre les ennemis à revers et passer tous les postes de garde. C'est assez représentatif de ce que le jeu propose de faire. C'est vraiment un jeu où on a de la liberté, contrairement au deuxième opus. Un peu moins de la deuxième partie du jeu quand il y a les extraterrestres. Globalement, c'est une deuxième partie qui m'a un peu déçu, parce que c'est plus linéaire, c'est plus... Les extraterrestres, ils ont beau être assez sympas, je préfère quand même tuer des Coréens.
Ouais, tu vois, les Coréens...
Alors, ouais, ça va être dur d'enchaîner après ça. J'aime bien les Coréens, mais... Alors, justement, pourquoi j'aime tuer les Coréens? Car ils sont un peu intelligents.
Moi, j'aime bien les Coréens, personnellement, mais...
Ouais. Ouais, je parle de tuer des gens, là, c'est différent, donc... Pourquoi? Eh bien, parce que il y avait une IA qui, à défaut d'être exceptionnelle, était fun. Par exemple, quand on tuait quelqu'un, il y avait forcément toute une pelletée de mecs qui se ramenaient et qui disaient « qu'est-ce qui se passe ?» ou autre chose. Quand on arrivait dans un camp et qu'on se faisait repérer, ils appelaient des renforts. C'est plein de petits détails à la con comme ça qui étaient vachement sympas. Il faut savoir que le jeu offre vraiment deux approches. On peut quasiment faire toute la première partie sans tuer personne. On endort avec des petites fléchettes et on continue, hein, parce que le mode invisible, ça permet quand même d'avoir un jeu. Je ne vais pas dire que c'est un jeu d'infiltration, mais il y a des moments où on pourrait presque s'y croire et c'est vraiment sympa. Donc, pour revenir graphiquement, parce que moi je le découvre enfin, on m'en a dit mon et merveille. Alors là, bien sûr, tout en très élevé, anti-aliasing x16 et tout le patatrac. C'est un jeu qui, même aujourd'hui, reste très beau, mais qui. Pêche un peu par son optimisation qui est pas super, et franchement un truc que je trouve un peu pitoyable, c'est les explosions, celles qui ne sont pas scriptées, elles sont pas si belles que ça, elles font même peut-être un peu pitié quand on voit d'autres jeux à côté. Donc bon, c'est surtout qu'elles sont pas au niveau du reste, mais finalement Crysis, ça reste un très bon jeu. Les musiques, c'est pareil, j'en ai pas parlé, on a vraiment des thèmes un peu épiques qui seront appuyés toute l'aventure, mais c'est vraiment un très bon jeu que je conseille à tout le monde. Par contre, méfiez-vous, hein, si vous n'êtes pas un joueur PC, il demande encore un gros PC. Enfin bon, on en parlait la semaine dernière, il serait peut-être porté sur console, avec des gros modes d'interrogation. Et j'ai oublié de parler de la physique, juste rapidement, on a une physique qui est géniale, vous pouvez tout détruire quasiment. C'est pas du Bad Company 2, c'est une physique qui est un peu différente, mais qui est assez efficace. Donc voilà.
Il y a un multijoueur ?
Ah oui, alors j'en parle pas, parce que le multijoueur, en fait, je veux dire, non, mais j'en parle même pas, parce que j'y ai joué, mais vraiment, c'est un multijoueur, faut savoir, qui est assez ouvert, contrairement au multijoueur du 2, qui est vraiment Call of Duty. Là, c'est un multijoueur qui est assez ouvert, mais finalement, j'en retiens rien. C'est un multijoueur qui est sympathique, mais... Voilà, on y jouera quelques heures et on passera, parce que c'est pas du multijoueur qui peut être addictif comme du Battlefield ou du Call of Duty pour certains. D'accord. Mais ça reste solide à ce niveau-là. Niveau durée de vie, je dirais qu'il y en a. Bon allez, si on fait vraiment tout en grosse ligne droite, ça fait 6 heures pour le solo. Mais moi, j'ai passé une bonne quinzaine d'heures, parce qu'il faut savoir que on peut explorer plein d'endroits, il y a plein d'approches différentes. Donc vraiment un très bon jeu, solide sur tous les aspects, que je conseille à tout le monde. Donc on passe maintenant au point culture, et c'est le tyran qui va commencer à nous parler de la croisée dans un labyrinthe étranger. Je me risque à dire le vrai nom. Ikoku Meilo no Croisée. Le tyran, lance-toi.
Paris, fin du 19e siècle. Sous la verrière de la vieillissante Galerie du Roi, on peut apercevoir la silhouette menue d'une petite fille japonaise nommée Yune. Pour l'heure, seuls quelques Parisiens sont au courant de son arrivée.
Alors, pourquoi je vous parle donc de la croisée dans un labyrinthe étranger cette semaine? Parce que c'est un manga donc qui a été adapté récemment en anime. Et qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet anime? Eh bien, c'est un anime qui se passe à Paris. Mais pas n'importe quel pari, c'est le pari de la seconde moitié fin du 19e siècle. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune japonaise qui va être emmenée en France par un certain Oscar. Parce que en fait, Yune rêvait de découvrir la France, donc, et il décide comme ça de la ramener chez lui. Et ce qui est très intéressant dans cet anime déjà, c'est que le Paris du 19e siècle est très bien rendu. Franchement, c'est il y a eu un travail. L'auteur du manga, je sais pas, je pense qu'il a dû faire un travail de fou. Il a dû aller chercher la documentation et tout parce que c'est vraiment
pas limité aux baguettes et aux bérets alors.
Non, mais c'est vraiment tu vois, c'est les costumes d'époque. C'est la, enfin, tu me diras pareil, l'architecture parisienne n'a pas trop changé depuis cette époque, mais c'est vraiment tu ressens l'ambiance de l'époque quoi. En plus il faut savoir donc cette période c'est vers 1870 je pense, enfin à mon avis c'est un peu après la commune de Paris. La Prusse nous a mis une grosse branlée. D'accord. Et là en fait c'est un Paris si tu veux où t'as d'un côté avant Paris c'était plutôt mixte au niveau des classes sociales etc, et là c'est un Paris vraiment séparé où d'un côté t'as les ouvriers, de l'autre t'as les bourgeois etc. Enfin bref, c'est une ambiance qui est vraiment très bien retranscrite. Et ce que j'ai trouvé excellent, bon déjà le personnage principal Yune, vraiment elle est trop mignonne, c'est
trop mignonne, c'est,
elle, trop mignonne, elle est trop adorable, tu vois, c'est et en plus bon t'as évidemment le thème du choc culturel, genre au début elle fait la révérence à Claude qui est le petit-fils d'Oscar, et t'as Claude qui fait grand-père qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu lui apprends des trucs obscènes comme ça. Alors l'idée c'est que donc ils vont apprendre à se connaître, elle va apprendre à vivre à Paris, enfin c'est très intéressant, elle va découvrir donc la gastronomie parisienne, elle va découvrir le travail de Claude parce qu'il faut savoir que Claude forge les enseignes. Donc ils ont un magasin dans une des nombreuses galeries parisiennes. Vous savez les galeries sous toit couvert à Paris. Donc ces galeries commencent à être un peu moins populaires parce que tu as les grands magasins qui commencent à ouvrir à cette époque. Enfin c'est un voyage au cœur du Paris du 19e siècle avec des personnages super attachants. Un anime vraiment que je vous conseille quoi.
D'accord. Et au niveau du scénario, c'est vraiment juste basé sur le choc culturel où il y a de l'amour, ce genre de trucs là.
Si tu veux, alors, la gamine Edouard, je me souviens plus de l'âge exact, mais voir une dizaine d'années ou un truc comme ça. Donc et Oscar, bon, il est pas non plus adulte. Okay. Enfin, quoi que pour l'époque, s'il est adulte, hein, je veux dire, s'il a 16 ans pour l'époque, j'imagine qu'il est considéré comme un adulte quand même. Et je veux dire, c'est le patron. Il doit avoir 16 ans, mais c'est déjà le patron de son enseigne parce que son père est mort depuis des années. Donc, comme son grand-père peut plus bosser, donc c'est le patron de l'enseigne, etc. Ouais. Donc, bon, peut-être que ça va évoluer ensuite, mais bon, ça serait quand même un peu.
Ouais, voilà, d'accord. Et donc, tu situerais où le public cible en termes de tranche d'âge à peu près, féminin, masculin et au niveau de l'âge.
J'ai du mal à situer au niveau de l'âge. En fait, je te dirais, c'est pour ceux qui aiment les animes tranches de vie, quoi.
D'accord.
Mais tranches de vie historique, quoi. C'est parce que c'est un rythme très posé. C'est vraiment pas un anime que tu vas regarder pour l'action et tout. Non. C'est un anime très posé que tu vas regarder vraiment comme ça pour vraiment découvrir un peu, voyager un peu. Parce que même moi qui suis parisien, ça me fait voyager. Donc en plus, bon, c'est très intéressant parce que même si c'est le choc culturel, le personnage de Yume est pas une parodie non plus, quoi.
D'accord.
C'est drôle, mais ça peut être très sérieux par moments aussi. Bon, il faut savoir qu'en plus à cette époque-là, tout ce qui est Japon est un peu à la mode à Paris, parce que les Parisiens découvrent le Japon et tout, donc c'est très à la mode. Donc Yume est un peu une attraction de la galerie. En plus, elle va attirer l'attention d'une fille bourgeoise locale et tout. Ça va donner lieu à certaines situations. Ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple à un moment, il y a un passage où donc elle découvre, ils vont faire les courses au marché. Et elle se rend compte des prix, elle découvre un peu combien ça coûte de manger, etc. Puis à un moment donné, il lui propose d'acheter du papier à lettres pour qu'elle écrive chez elle. Et elle refuse parce que elle regarde le prix et elle se rend compte que ça coûte plus cher que la nourriture et tout. Enfin, c'est vraiment très, c'est très fin. Je dirais que c'est pas un anime pour adolescents de base, un peu décérébrés.
C'est pourri.
Non, non, c'est pas pour dénigrer les animes pour adolescents non plus. Je veux dire, moi ouais. Je suis un grand fan d'adolescents aussi, j'adore ça. Mais c'est pas un anime que tu vas regarder. Ouais. Il faut le regarder à tête reposée, tranquillement. D'accord. C'est pas un truc rapide. Quoi.
C'est pas la même genre de consommation. D'accord. Quoi. D'accord.
Alors bon, j'ai quand même quelques interrogations dessus. Par exemple, il y a des trucs que je trouve pas trop crédibles. Genre la gamine, au début, bon, tu sais pas trop si elle parle français ou pas. Mais finalement, tu te rends compte qu'elle parle français. Alors que franchement, bon, je veux bien que ça soit... Même si c'est une gamine douée, qu'elle a... le truc, c'est que même Oscar s'était pas rendu compte qu'il parlait français. Donc, tu dis, bon, ouais, c'est super doué la gamine, quoi.
On se fout un peu de ma gueule, là. Hein.
voilà, quoi. Déjà, en plus, bon, j'espère quand même qu'ils vont donner des explications sur les raisons qui font qu'elle vient à Paris, parce que bon, je veux bien qu'elle veuille découvrir un peu Paris, etc., mais c'est un peu léger comme explication, tu vois.
Quand t'as 10 ans, tu te casses pas avec un inconnu. Bon,
faut savoir, je pense que une explication potentielle, faut savoir que ce soit Paris au Japon, enfin, à cette époque-là, c'est un peu le bordel, quoi. C'est, donc, comme je l'ai dit, en France, bon, c'est un peu fin de seconde moitié du 19e siècle, donc, il y a avec la Prusse, commune de Paris, etc., donc, Paris, on ne connaît pas la date exacte, hein, mais je pense qu'en fait c'est juste après la commune, on sort du bordel, quoi, en gros.
C'est un peu le Dawa, quoi.
Déjà, c'est un peu le Dawa à Paris, mais c'est le Dawa aussi au Japon, parce que vers 1869, c'est la fin de l'ère Edo, donc c'est la fin du shogunat, et le début de l'ère Meiji, donc le retour de l'empereur japonais, etc. Donc c'est aussi le bordel au Japon. Donc je pense que ça pourrait être une explication potentielle, mais il faudra qu'ils, sans s'étendre trop dessus, il faudra qu'ils s'introduisent un peu, que ça crédibilise un peu plus le personnage. Quoi.
Question d'avoir une base solide.
Même, c'est, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que c'est pas la gamine un peu naïve, insupportable, c'est la gamine est très mature pour son âge. Genre à un moment donné elle casse un truc.
Putain ouais, elle est mature.
Elle casse un truc mais pour réparer son art, elle file un kimono qui bon je dirais pas ce que c'est ce kimono exactement mais il a une très grande importance pour elle en fait et il s'en rend compte après donc du coup il promet qu'il récupérera ce truc et tout. C'est vraiment les relations des personnages sont très intéressantes. Alors, en plus Oscar bon c'est le vieux papy un peu sympa qui drague les jeunes femmes et tout. C'est pas pervers, c'est pas le pervers de base des mangas. Non, c'est le mec classe qui drague, mais mature, mais qui drague les jeunes femmes comme ça et tout. Je vois tout le temps avec une nouvelle bonne femme et tout à chaque fois. enfin, vraiment, c'est un anime à voir.
D'accord.
Donc maintenant, on va parler de DLC ou plutôt de contenu supplémentaire. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2.
Ouais. Alors,
tu es allé dans une salle obscure pour observer ce film.
Oui, j'ai observé ce film dans une salle obscure.
J'irais même regarder.
Alors, déjà dissipons quand même tout de suite un doute. Ce n'est pas un DLC, hein. C'était bien prévu comme ça. Il y a eu les deux films ont été.
Mais il n'y a qu'un bouquin, bordel de merde.
Le tome 7 de Harry Potter, donc la saga bien connue, a été divisé sciemment en deux films. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire énormément. Dans les mois et années à venir au cinéma. Donc je parle par exemple Bilbon le Hobbit, enfin bon tout ça sera en deux films. Et finalement, moi je trouve enfin personnellement, je trouvais ça, j'étais le premier à dire que ça serait horrible de faire ça, que ça allait être de la merde et que c'était juste commercial. Et puis finalement, la première partie donc pour revenir un petit peu là-dessus, j'avais trouvé que la première partie était vraiment sympa. Parce que il y avait toute une ambiance un petit peu plus sombre que d'habitude. Alors il faut savoir quand même que les Harry Potter, plus ça va, plus ça s'assombrit. À force
le public devient de plus en plus vieux aussi. C'est même il y a beaucoup de gosses qui ont grandi avec la série, c'est dont vrai. Moi.
Dont moi aussi. Mais
t'es plus trop un gosse, Mordane.
si tu veux le but, c'est vraiment, enfin la saga a amené. Enfin, vers la fin, très logiquement, avec toute une ambiance qui s'assombrit évidemment. Et le septième épisode, c'est vraiment le paroxysme de la sombritude, on va dire.
Le truc trop dark.
C'est trop dark.
Et enfin, en tout cas, dans le bouquin. Et ce que je trouvais avec la première partie, c'était vraiment très bien rendu en termes de d'ambiance. Et puis en termes d'émotion, j'ai trouvé que c'était un des rares films Harry Potter qui vraiment m'avait pris dans le film. Et pourtant il y en a eu beaucoup, hein, et c'est le seul qui a réussi à le faire. Et donc j'attendais beaucoup de la deuxième partie, forcément, puisque j'avais bien aimé de la première. Donc je me disais que dans la deuxième partie, ça pouvait être que bien. En regardant les bandes annonces, je me suis dit bon, ils ont prévu de partir avec un grand feu d'artifice, avec le grand final. Forcément, hein, leur idée dans la promotion du film, c'était de partir en beauté, donc avec moult effets spéciaux, enfin des combats de partout.
Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un mais là-dedans.
Il va y avoir le mais, évidemment, puisque donc bouquet final, oui, je suis d'accord. Donc on retrouve tous les personnages qu'on voulait voir, certains voient, on met des scènes d'anthologie, donc je vous dirai pas lesquelles évidemment. D'ailleurs je vous dis pas le scénario du film parce que ça sert absolument à rien, hein, ça prend la suite de la première partie. Donc j'ai pas envie de vous spoiler.
Et oui, de toute façon, on le sait, soit on spoil. Donc bon.
C'est pas la peine que je vous le dise. Donc au niveau des, il y a des scènes d'anthologie. Pas beaucoup, mais des scènes vraiment sympas, notamment la bataille finale. Donc c'est avec beaucoup d'effets spéciaux plutôt pas mal faits. Donc ça c'est déjà en termes d'action, on est gâté. Le souci c'est que je trouve que il aurait manqué en fait un petit quart d'heure au film pour pouvoir développer un petit peu plus. C'est-à-dire que tout le côté émotion qu'il y avait dans la première partie est vraiment passé à la trappe dans la deuxième partie. Et pourtant, on sait que dans le livre, enfin, il y avait des scènes qui, en film, seraient vraiment passées à la limite de vous faire couler une larme.
Oh, n'en parle pas.
et je trouve que c'est vraiment, mais vraiment raté dans la deuxième partie, parce que ces scènes-là, en fait, ont été limitées à un seul plan. Qui dure quoi, je sais pas, même pas un quart de seconde. Et ça c'est vraiment vraiment dommage, surtout qu'on sait qu'un film, généralement, tu peux tirer beaucoup plus d'émotions que dans un livre. Bon, après ça se discute, hein, mais généralement ça se fait comme ça. Et donc je les attendais là-dessus, ça a pas été fait et j'ai été très très surpris. Donc et ça je pense que c'est à cause du format du film, qu'ils ont voulu le compresser en faire presque un film de juste 2 heures. Alors un film de 2 heures c'est quand même long, hein, je suis d'accord, mais avec un quart d'heure de plus ça aurait été beaucoup mieux géré à mon avis.
Un peu comme Transformers qui lui se donne le temps pour réussir à faire un chef-d'œuvre comme tu parlais.
C'est vrai. Et là je pense qu'avec un quart d'heure de plus il y aurait eu moyen de faire beaucoup mieux. Alors après je dis pas que c'est un mauvais film, pas du tout. Moi, juste pour la petite touche personnelle, c'est la première partie, c'est vraiment mon préféré de toute la saga. Et j'attendais en fait que ce soit au moins égal à la première partie pour le dernier qui est sorti là le 13 juillet. Et donc je trouve que c'est un petit peu en dessous, même s'il y a tout le combat final, tout ce qu'on attendait, tout est livré, hein, ils ont tenu leur contrat. Le souci, c'est que c'est moins bien géré que la première partie, et c'est ce que je trouve dommage, parce que il aurait pu y avoir tellement mieux. Enfin, je suis vraiment déçu en fait. Dans mon âme de fan, si tu veux, il aurait vraiment. Moi, je m'en fous, hein, des adaptations. Je veux dire, le livre, je l'ai lu il y a 2 ans. Je m'en rappelle plus dans le détail. C'est pas l'adaptation qui m'a gêné. C'est le fait que il y a vraiment des moments clés qui auraient pu être développés et qui n'ont pas pu l'être, faute de temps, j'imagine. Bon, voilà. Après, juste un petit mot sur la 3D relief. Je trouve que c'est pas gênant. Les trois quarts.
C'est déjà pas mal vu ce qu'on voit.
C'est déjà pas mal. Les trois quarts du temps, ça sert à rien comme d'habitude. Mais sinon, bon, si vous voulez avoir des lunettes sur le nez pendant.
Ah, parce que la baguette d'Harry, elle est en 3D.
Oui. Sur le dernier, oui.
C'est beau.
Ah, c'est tendu là.
Et juste petite question, parce que finalement tous les fans d'Harry Potter auront déjà été voir le film. Pour quelqu'un qui a pas lu les bouquins, qui a regardé les films, qui a regardé tous les films, mais tu sais, de manière un peu décousue, est-ce qu'il vaut la peine rien qu'au niveau du spectacle?
Oui, clairement. Le but c'était vraiment de donner du spectacle. Il y en a. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que l'émotion, ça rentre aussi dans le spectacle, si tu veux. Il peut y avoir beaucoup d'action, avec une scène un petit peu larmoyante, ça passe aussi, tu vois. Et il n'y a pas ça. C'est un petit peu dommage, surtout pour une conclusion comme ça, qui appelait ce genre de scène. Il n'y a pas eu ça. Mais je pense que les gens qui n'ont vu que les films, ils seront pas vraiment déçus par ce film-là. Ils auront vraiment la conclusion de la saga telle qu'elle devait être. Donc c'est vraiment un film qui tient son cahier des charges. Et bon, moi personnellement, qui m'a un tout petit peu déçu, mais bon, après c'est très personnel, hein, mais voilà, je pense qu'il lui a manqué peut-être 20 minutes ou un quart d'heure, quoi. Voilà, mais je vous le conseille quand même. Voilà, c'est une conclusion digne de ce nom, tout de même.
C'est la fin d'une époque.
C'est ça.
Bon, ben donc voilà, on n'avait rien d'autre à rajouter pour ce point culture. Nous espérons que ce podcast vous aura plu. On vous dit donc à la semaine prochaine pour le 15e podcast. Et salut.
Salut.
Salut. Salut.